puisse les aider à retrouver le plaisir de manger, j'ai décidé de relever le défi Abdos sans gluten. Faites comme moi. Engagez vos abdos. Inscrivez-vous au www.celiac.québec.
Bonjour, ici David Molloy de chez Molloy Nettoyage. Vous êtes à la recherche d'une opportunité professionnelle enrichissante? Nous avons deux postes à combler, un de jour et un de soir. En tant que leader dans le domaine de l'entretien ménager, nous recherchons des personnes autonomes, minutieuses et motivées. Pour un travail sans pression, des salaires compétitifs et un REER collectif, info à commercial, molloynettoyage.com. Faites partie de notre équipe. Molloy Nettoyage, un choix brillant.
Ici Louis-Vincent Lebel. La référence pour votre toiture en bardeaux et vos rénovations, c'est LVL Construction. Sommes les seuls à avoir la plus haute certification du fournisseur GAF. Un bardeau garanti 50 ans, une installation garantie jusqu'à 25 ans, une protection contre les vents de façon illimitée. Offrez-vous la tranquillité d'esprit. Projet de toiture, de rénovation, nous pouvons vous accompagner. Contactez-nous pour une estimation rapide et gratuite au 750-7124 ou visitez le lvlconstruction.ca.
Vous cherchez un local idéal pour votre entreprise? Bien situé sur la rue Saint-Germain, en plein centre-ville de Rimouski, très accessible en avant ou en arrière avec une superficie de 1252 pieds carrés. Pour plus d'informations ou une visite, contactez Danny au 418-727-5960.
Rimouski, 93.3.
Au réseau Cogeco, voici le Québec maintenant. Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère. Le
Québec maintenant. 16h02, coup de théâtre aux États-Unis. Aujourd'hui, la Cour suprême de l'État de New York qui a annulé la condamnation de Harvey Weinstein, le producteur déchu d'Hollywood pour des affaires d'agression sexuelle. On a jugé que le procès n'avait pas été équitable. On va en parler avec Catherine Beauchamp et Henri Arnaud dans quelques minutes. Salut Valérie.
Salut Patrick.
La mairesse de Montréal, Valérie Plante, répond à la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbeault, qui affirmait hier que gérer le transport en commun, ben c'est pas dans les missions de l'État.
Exactement, la mairesse qui affirme que oui, tout en invitant la ministre Guilbeault à prendre le métro le matin. Valérie Plante s'exprimait lors du conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal aujourd'hui. On l'écoute.
J'ai envie d'inviter la ministre, d'inviter tout le gouvernement du Québec à venir dans le métro le matin, de venir prendre l'autobus à Laval. D'attendre longtemps dans les couronnes parce qu'il y a juste un autobus qui passe une fois par heure.
Son homologue à Québec, Bruno Marchand, a aussi réagi. Il ne fait plus confiance à Geneviève Guilbeault. Le maire Marchand déplore le manque de vision de la ministre et s'en remet désormais au premier ministre pour le développement du transport collectif.
Je crois à l'engagement du premier ministre de vouloir le faire, de vouloir faire un beau projet pour Québec, de vouloir y mettre l'argent et de vouloir le faire vite. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'il m'a répété et je le crois profondément. J'ai pas d'attente envers le premier ministre par rapport à sa relation à Mme Guilbeault. Ce que je vous dis, c'est que je vais travailler avec le premier ministre pour faire en sorte que la suite des choses soit dans le cadre de ce qu'il nous a promis. On va travailler avec ceux qui nous disent qu'ils veulent avancer dans le projet.
Et dans 24 heures, très exactement, Bruno Marchand va être dans nos studios.
Ah, okay.
Il va être là dans le bloc de 16 heures demain. Sinon, scène fédérale, Jagmeet Singh, chef du NPD, qui accuse le gouvernement Trudeau d'être responsable de la crise du logement qui sévit au Québec et dans le reste du Canada.
Oui, M. Singh, qui était de passage à Montréal aujourd'hui, le chef néo-démocrate, a indiqué que la situation ne fait que se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Jagmeet Singh soutient d'ailleurs que la stratégie de Justin Trudeau en matière de logement est un échec et que les solutions mises de l'avant par les libéraux ne fonctionnent pas du tout.
Les libéraux et Justin Trudeau ont promis qu'ils vont régler tout ça il y a 7 ans avec la grande annonce d'une stratégie nationale pour le logement. Mais c'est clair que ça n'a pas fonctionné. Les libéraux et Justin Trudeau n'ont pas pris ce problème comme un problème d'urgence et c'est pourquoi on se retrouve dans cette situation.
Merci Valérie.
Merci.
On se retrouve plus tard à l'émission. Oui. Salut Jérémy. Jérémy?
Oui, je suis là.
Philo, les amateurs de football attendent avec impatience le coup de 20h parce que c'est le repêchage de la NFL.
Oui, et on s'attend ce soir à ce que les 4 premiers choix soient tous des quarts arrière. On vous rappelle que les Bears de Chicago ont le tout premier choix. 2 matchs dans les séries Ligue nationale ce soir, les Panthers et le Lightning, ainsi que les Islanders et les Hurricanes. Et victoire de Leila Annie Fernandez et Félix Auger-Aliassime au tournoi de tennis de Madrid.
Mickey, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense à 16-50?
Diantre! Le profilage racial existe, Patrick.
Ah, parfait, c'est une surprise.
Est-ce que tu entends la surprise dans ma voix? Oui. Non, sur l'article de la presse aujourd'hui. Puis je veux revenir aussi sur une autre situation en 2022. Une loi qui a été changée. Les policiers étaient pas contents. C'est peut-être un petit peu de leur faute.
Grosse nouvelle en culture québécoise. On a un album des Cowboys Fringants qui est sorti aujourd'hui.
Oui, qui est arrivé en surprise sur le coup de minuit. L'album s'intitule Pub Royal. Il y a quelques chansons qui sont tirées de la comédie musicale Pub Royal, mais qui ont été rechantées par, entre autres, Carl Tremblay. Et ça donne une toute autre couleur. D'ailleurs, cette pièce, La fin du show, est probablement la plus poignante de l'album.
Je pourrais dire, avec un sourire, ok, alright, j'ai eu une ben belle ride, et je n'ai aucun regret, mais c'est pas si vrai, parce qu'au final...
On en écoute davantage tantôt. Disons que c'est doux amer, les paroles de cette chanson.
Heureusement, l'album n'est pas entièrement... Tu sais, il y a des chansons comme ça, mais il y a des chansons aussi très vivantes. Parfait. Ça balance l'album.
On a hâte d'entendre ça. Et on va parler évidemment tantôt à Henri Arnault à Hollywood. Coup de tonnerre, je le disais tantôt, Catherine. Harvey Weinstein, qui va avoir un nouveau procès, semble-t-il, à New York. La Cour suprême de l'État de New York a annulé le procès qu'il l'a envoyé en prison.
Le Québec Maintenant. Au réseau Cogeco, vous écoutez Le Québec Maintenant. Le Québec Maintenant avec Patrick Lagacé, votre point de repère.
Le Québec Maintenant. 16h06, la DPJ est sur la sellette. Deux histoires qui sont sorties dans le journal La Presse cette semaine. Hier, il était question d'adolescentes qui ont été abusées pendant des années dans une famille d'accueil. Et quand elles ont levé la main, ben la DPJ a été très, très lente à réagir. Ça a pris deux décennies presque avant que l'abuseur, son beau-frère et son fils soient sanctionnés. Et aujourd'hui, dans la presse, ben Katia Gagnon sort une autre histoire où la DPJ paraît très, très mal dans une affaire d'agression sexuelle. On va parler à Katia dans une seconde. Et tantôt, Nancy Audet, l'ancienne marraine de la fondation de la DPJ, va être avec nous pour réagir à toutes ces révélations. Salut Katia.
Salut Pat.
Ton histoire est bouleversante. Faisant le résumé là, pour les gens qui ne l'auraient pas lu dans la presse aujourd'hui.
En fait, c'est une petite fille de 12 ans, donc, qui est une fillette d'une famille qui a immigré au Canada avec son père. Sa mère est restée au pays. Donc, son père, elle est maltraitée par son père et finit par être placée donc dans un foyer de groupe où elle est agressée sexuellement par un éducateur. Elle signale l'agression à une autre intervenante de ce foyer de groupe qui manifestement ne la croit pas, signale les choses peu tardivement à la DPJ. Bref, l'enfant, ça prend du temps, n'a pas de soutien psychologique et ce foyer de groupe-là finit par être fermé.
Pourquoi on le ferme?
Ben, disons que les motifs de la fermeture finale ne sont pas clairs. On me dit qu'il s'agit d'une pénurie de personnel. Mais disons que ce foyer de groupe-là, il y avait une historique, là. 6 mois avant que cette petite fille-là se fasse agresser, il avait été fermé. Pas encore là, pas trop clair pourquoi, mais l'ensemble des enfants avait été replacé et l'ensemble du personnel avait été congédié. On parle d'agissement entre usagères, d'ordre sexuel, puisqu'on avait demandé à ce foyer de groupe-là de former son personnel, ce qui manifestement n'a pas été fait.
Ce qui était consternant particulièrement dans ton texte, là, c'est quand la petite fille se retourne vers une adulte soi-disant de confiance, une autre intervenante, l'intervenante lui aurait demandé, lui aurait posé la question, étais-tu consentante?
Exact. Puis cette histoire, c'est ça, Patrick, ce point-là précisément, montre que cette histoire-là n'est pas qu'une... comment dire, ça révèle beaucoup de choses sur le réseau actuel, dont ça, qu'il y a un problème de formation clairement chez certains intervenants qui sont à l'œuvre dans ces ressources-là, parce que demander à une enfant de 12 ans si elle était consentante, ça se peut pas, là. Je veux dire, on est dans la base, là, à 12 ans, c'est impossible pour un enfant de consentir à de tels gestes, évidemment. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire, Patrick? Ça veut dire que il y a une pénurie de personnel qui est extrêmement criante et qui fait en sorte que on engage des gens dont la formation, peut laisser à désirer, pas tous là, hein. Il y a des gens qui sont très bien formés, qui ont des bacs, qui font très bien leur travail, mais il y a des gens qui manquent de formation et dans toutes sortes de lieux. Moi, j'entends beaucoup de choses très inquiétantes sur les centres de réadaptation. Et l'autre point, Patrick, c'est que on manque tellement de lieux d'hébergement que là, ce foyer de groupe là, encore là, est une illustration d'un problème systémique là. Foyer de groupe fermé, personnel pas encore formé. On rouvre le foyer de groupe, on met des enfants là, même si les conditions ne sont pas clairement pas remplies là. Ça ressemble à la situation qu'on vit dans le réseau des personnes âgées avec les RPA et les résidences intermédiaires où les autorités disent, rappelons-nous du cas de Aaron là, qui était comme on leur avait dit là, depuis des années telle chose à améliorer, ça se faisait jamais. On dirait qu'on est dans une situation semblable.
Katia, hier là dans l'émission, il y a deux aspects des services sociaux que j'ai abordés. D'abord l'histoire de Gabriel Chen qui touchait cette histoire de DPJ là, un foyer d'accueil où les adultes là, clairement abusaient les petites filles qui étaient là. Ça c'est une part. Le Devoir a fait une enquête aussi sur tout l'encadrement des gens qui sont accusés aux criminels, mais qui sont jugés non criminellement responsables. Partout, là, tu parles de Aaron, tu parles des vieux, c'est toujours la même affaire. On n'a pas assez de monde, on n'a pas assez de lieux.
Oui.
Les lieux sont souvent, disons, assez vétustes. Parce qu'on n'a pas de monde, il y a des cas qu'on échappe. Dans le cas des non-criminellement responsables, ça mène à des meurtres.
Mm.
Dans le cas des jeunes, ça mène à des abus. Puis dans le cas des vieux, ça mène à du monde qui meurt de faim. Mais exact. Partout dans le système de santé et de services sociaux, il y a ces trous dans le filet.
Exact. Puis ça révèle d'autres choses, cette histoire-là, Patrick, dont le fait que... on dirait que les ordonnances des tribunaux, là, quand même, un tribunal là, qui ordonne quelque chose, les organisations doivent s'y conformer. Et on dirait que le DPJ a tendance à ne pas se conformer à ça. Et dans ce cas-là, précisément, la petite fille, donc, une fois le signalement fait, hein, le signalement est fait tardivement, mais il est fait par l'intervenante. Et là, on dirait qu'il y a une évaluation de ce signalement-là qui est faite. Mais comme l'enfant est dans une ressource de la DPJ, on dirait que le signalement est fait à la va-vite, là. On constate tout de suite que son développement est pas compromis parce qu'elle est dans une résidence de la DPJ. C'est comme une façon de faire. Or, en 2019, on parle de 2 ans avant, là, il y a une juge qui avait dit non, cette façon de faire là, c'est pas bon. Vous allez me changer ça, vous allez faire un protocole clair avec un vrai signalement. Et on avait demandé à la Commission des droits de la personne et à la DPJ de travailler à ce protocole-là pour que ça soit clair et que ça se fasse dans les règles. Or, la directrice de la protection de la jeunesse est venue dire devant le tribunal, non, ça n'a pas été fait.
Elle n'a pas reçu le jugement.
Ben, non. La directrice de la protection de la jeunesse, elle n'a pas tout ce protocole-là qui devait être établi, ça n'a tout simplement pas été fait, ce travail-là, en collaboration avec la Commission des droits de la personne. Donc, elle est venue dire, non, on ne l'a pas fait. OK. Bon, là, ça, ce que ça nous dit aussi, autre problème systémique, Patrick, c'est où était la CDPDJ dans tout ça?
Ça, c'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse.
Qui est théoriquement l'organisme qui est un peu le chien de garde, le seul chien de garde de la DPJ. Bien, cet organisme-là, là, il est supposé s'occuper des problèmes systémiques. Bien, là, il y en avait un problème systémique, là, un protocole qu'on devait mettre en place pour que ces problèmes-là qui surviennent dans des ressources soient signalés de façon, soient évalués de façon adéquate. Était où la Commission des droits de la personne? Elle n'était pas là.
On va poser la question à Nancy Audet qui est à ta gauche. Nancy, on la connaît, journaliste, autrice du livre Plus jamais la honte, elle-même une ancienne enfant de la DPJ, longtemps marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ. Bonjour Nancy.
Bonjour.
D'abord, Katia posait la question, tu sais, où était la Commission des droits de la personne et de la jeunesse dans ces dossiers-là? Tu es très critique envers cette commission-là face à la DPJ.
Oui, parce que ça fait 20 ans que les gens du milieu sont critiques envers la CDPDJ. Il y a le juge Michel Dubois, en 2004, qui disait que le tribunal n'avait plus confiance en la CDPDJ. Qu'il y avait une mâchoire, mais qu'il n'y avait pas de dents. Là, tout le monde le dit. Il y a des juges, il y a des avocats en droit de la jeunesse, il y a l'ancien directeur des enquêtes de la CDPDJ, Jean Théoret, qui le dit, des anciens employés, André Lebon, le vice-président de la Commission Laurent, qui dit, Ça fonctionne pas. La CDPDJ ne joue pas son rôle de protecteur des enfants vulnérables. C'est la seule institution qui peut le faire. Elle a les pouvoirs de le faire et elle ne le fait pas. Même quand un juge lui demande de venir devant le tribunal, elle n'y va pas. Si c'est pas de l'arrogance, moi je trouve ça épouvantable. On parle d'enfants vulnérables qui ont pas de réseau de soutien,